Bonjour et bienvenue pour ce temps de culte. Quelques indications pratiques, on chante dans le livre vert. Et nous allons suivre la liturgie qui se trouve dans vos cantiques, la petite feuille verte. C'est pour ça qu'il n'y a que deux cantiques qui sont indiquées, puisque tous les autres figurent sur la feuille verte. Enfin, verte, blanche. Voilà. Juste avant de nourrir la foule au désert, Jésus disait à ses disciples agités : Venez, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Le culte, c'est chaque fois à nouveau ce temps où nous acceptons cette invitation que Jésus nous fait, une invitation à nous mettre en retrait, à faire pour un temps un pas de côté, temps où l'on consent à se vider de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui fait déborder nos vies, un temps où nous avons soif et faim d'une parole nouvelle. Oui, le culte, c'est chaque fois à nouveau temps de repos, temps pour se refaire des forces, temps pour se renouveler en secret, temps pour se retrouver en vérité. Un temps de grâce, un temps d'attente, un temps de paix et un temps de repos. C'est Dieu qui nous invite et c'est lui qui nous donne sa grâce et sa paix en Jésus-Christ. Amen. Le premier spontané, laisse-nous, Seigneur. À vous asseoir. Et nous prions pour dire merci à Dieu pour toutes les grâces dont il nous comble jour après jour. Pour cet arbre planté là, au seuil de ma maison, qui raconte ta beauté, qui chante la création. Pour le jour à midi quand déborde la lumière, et pour l'ombre de la nuit qui murmure son mystère, nous te disons Amen et merci Seigneur. Pour le pain quotidien, pour le silence et la paix, pour la rencontre en chemin, un repas partagé, pour la vie qui sourit lorsque tout devient grâce, quand la parole guérit et qu'elle vient apaiser nos angoisses, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dire Amen et merci. Pour que s'ouvre notre regard au miracle de la vie, que s'éveille notre écoute au chant de l'infini, pour que naisse la prière et parle la liturgie, que se tende mes mains en un geste qui dit oui, aujourd'hui nous voulons te dire, Seigneur, Amen et merci. Et pour le Dieu qui est Père et qui nous dit à chacun, chacune, qui nous sommes. Pour le Fils qui dit Dieu vivant en Jésus-Christ. Et pour le Saint-Esprit qui souffle en nous la vie, nous disons Amen et merci. Et nous nous levons pour chanter au 41-38 le cantique indiqué « Louange et gloire à ton nom ». Je vous invite à vous asseoir. Voici ce que nous lisons dans l'évangile de Jean. Je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous prions et déposons nos vies devant Dieu. Et nous prions. Dieu vivant, nous voulons bien maintenant te dire tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous oppresse, toutes ces réalités que nous portons avec nous comme des fardeaux et qui sans cesse nous éloignent de toi et des autres. Nous voulons bien, parce que nous savons que tu n'en profiteras pas pour nous humilier ou nous attrister. Tu es toi, le berger, qui part à la recherche de la brebis qui au loin t'appelle dans le désert. Oui. Nous voulons bien exprimer devant toi tout ce qui est au fond de notre cœur et qui pèse. Trouver des mots pour te dire nos défaillances et nos regrets, nos amertumes et nos violences. Parce que nous croyons à la force et à la tranquillité de l'aveu. Nous ne voulons ni enfouir, ni cacher, mais seulement te dire, comme on dit un secret, seulement te remettre notre vie, telle qu'elle est, ombre et lumière, afin que tu viennes l'éclairer. Amen. Et tout en restant assis, nous chantons « De tous mes maux, il me guérit ».
De tous mes maux, il me guérit. Il parle et je revis pour me guider sur son chemin. Mon Dieu.
Et je vous invite à vous lever pour recevoir, bien sûr si vous le pouvez, pour recevoir cette parole qui nous met debout, de la part de Dieu. Recevoir le pardon de Dieu, c'est dire oui à la vie tout entière. C'est accepter de déposer devant Dieu le poids de nos soucis, de nos erreurs. Hier est passé, demain n'est pas encore. Aujourd'hui, sois vivant, sois vivante et animée par la vie que Dieu te donne. Oui, Dieu nous pardonne en Jésus le Christ, alors qu'il nous conduise à dire oui à la vie tout entière, oui, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Ô ma joie et mon espérance, et on va le chanter deux fois. Nous pouvons à présent écouter cette parole que Dieu nous donne, qui est comme un poteau indicateur qui nous indique le chemin à suivre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. manifestez de la douceur envers tous, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le-lui avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus le Christ. Amen. De ton esprit emplis nos êtres. À vous asseoir. Avant d'entendre les Écritures et le texte pour aujourd'hui, nous prions. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur, afin que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies, ici, aujourd'hui. Amen. Je n'ai retenu une seule des trois lectures qui est proposée pour aujourd'hui, la lecture de l'Évangile. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 26 à 33. Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé, rien de caché qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits en terrasse. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux moineaux pour un as ? Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre, indépendamment de votre père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi en lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Merci Seigneur pour ta parole, elle est lumière et vérité sur nos chemins. Amen. Souffle du Dieu vivant.
Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur.
Je vous invite à vous asseoir. Le chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu marque le début de la deuxième grande partie de l'Évangile. On a eu le début du ministère de Jésus, le choix et l'appel des disciples, l'enseignement de Jésus en parole et en acte. Et on a le sentiment, à la fin du chapitre 9, en quelque sorte que le ministère de Jésus bat son plein. On nous dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il y enseignait dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, parce qu'elles étaient harassées et prostrées, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Donc Jésus va, vient, guérit, parle, enseigne. Et c'est précisément toute cette activité qui, semble-t-il, lui fait passer une autre étape. Comme s'il avait pris conscience qu'il faut plus d'ouvriers, tant la moisson du monde est grande. Et c'est alors qu'il appelle les 12, qu'il les envoie en mission, deux par deux, mais non pas sans les avertir que cette mission allait être plus que périlleuse, puisque, nous dit le texte juste avant notre passage, ils sont envoyés comme des brebis au milieu des loups. Vaste programme. Et ça se corse encore un peu plus quand on lit ce qui suit. Voici juste quelques extraits, quelques mots. Vous pouvez relire le début du chapitre 10. Prenez garde aux hommes, ils vous livreront aux tribunaux, ils vous flagelleront, vous serez traduits devant les gouverneurs, vous serez haïs à cause de mon nom. On comprend mieux pourquoi, dans notre passage du jour, Jésus répète par 3 fois « Ne craignez pas, n'ayez pas peur. » Ne pas avoir peur. La belle affaire. Alors qu'ils sont envoyés dans des conditions pour le moins périlleuses, que leur mission c'est de parler haut et fort, de parler, de proclamer tout ce qui pour le moment a été dit dans le creux de l'oreille. Dites au grand jour, proclamez sur les terrasses, sur les toits. On aurait envie de dire, bon ben, oui ben c'est bien, Jésus a donné cet ordre aux 12, parfait. Ça ne nous concerne pas vraiment. Hein ? On n'est plus les disciples de Jésus il y a 2000 ans. Mais je dis ça en souriant parce que vous conviendrez bien qu'une telle affirmation est certes confortable, mais elle ne tient pas vraiment. On a beau se tortiller dans tous les sens, cette invitation, cette injonction nous est faite à nous aussi, chrétiens du 21e siècle. La bonne nouvelle du royaume, celle qui nous a un jour été murmurée dans le creux de l'oreille, cette foi qui nous habite, qui nous met en mouvement, n'est pas destinée à rester dans notre fort intérieur. Elle n'est pas non plus destinée à être proclamée, mais seulement le dimanche matin, entre les 4 murs du temple, dans nos assemblées. Et il y a fort à parier que cette invitation, cette injonction, nous mette mal à l'aise quand même. Comment ça ? Parler de Dieu, de Jésus, de ma foi, de notre foi, dans l'espace public. Et la laïcité alors ? En parler à mes amis, à mes collègues de travail, même parfois à ma famille. Et le prosélytisme alors ? Bon, j'ai évidemment pas de réponse toute faite. Mais ce que je vous propose pour ce matin, c'est de cheminer en compagnie de ces 3 « n'ayez pas peur » qui sont dans le texte, pour essayer de dégager tout au moins quelques pistes de réflexion et pour voir sur quel chemin nous pouvons avancer, à la fois individuellement et tous ensemble. Donc le premier « ne craignez pas, n'ayez pas peur » se situe au verset 26. « Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne doivent être révélé, rien de caché qui ne doivent être connu. » « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits, en terrasse. » Peut-être que Jésus reprend là un adage ou un proverbe de son temps, un peu comme s'il disait « Un jour, de toute façon, tout finira par se savoir. » Il m'a semblé que cette affirmation traduisait le caractère entre guillemets, impossible à retenir de la bonne nouvelle du royaume. On ne peut pas endiguer le flot de la bonne nouvelle du royaume. Quoi qu'on fasse, qu'on se taise ou non, cette bonne nouvelle finira un jour par arriver sur la place publique parce que c'est là sa destination. Et ça me fait penser à cet autre verset qui n'est certes pas dans l'évangile de Matthieu, mais qui est dans l'évangile de Luc. Un verset qui nous dit « Si eux, c'est-à-dire les disciples, se taisent, les pierres crieront. » C'est au chapitre 19 de l'évangile de Luc, au verset 39. Alors, me direz-vous, pourquoi témoigner, puisque de toute façon, ça va se faire. Même les pierres vont se mettre à témoigner. Peut-être parce que si nous ne le faisons pas, nous, alors individuellement, mais aussi collectivement, en tant que paroisse d'Annecy ou Église protestante unie de France, peut-être que si nous ne le faisons pas à ce titre-là, peut-être que ce qui va manquer alors, lors de la diffusion de cette bonne nouvelle, c'est notre voix à nous, sans chauvinisme et sans esprit de clocher du tout, mais peut-être que c'est notre parole alors qui va manquer, notre parole bien spécifique, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que communauté et église. Si nous faisons l'économie de cette annonce, alors c'est notre voix spécifique, notre tonalité qui va manquer au concert de l'annonce de la bonne nouvelle. Et ça serait bien dommage pour le concert. Venons-en au second, n'ayez pas peur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Voilà un verset à la fois plein d'espérance, mais aussi très rude, souvent rude chez Matthieu. Rude parce qu'il nous parle de peur, de crainte de Dieu qui peut faire périr et le corps et l'âme dans la géhenne ou l'enfer. Ou... Vous savez, la géhenne, c'était en fait c'est un mot qui est devenu notre mot propre pour non propre pour enfer, mais c'était un lieu bien déterminé à l'extérieur de Jérusalem, une vallée où on mettait les ordures et ça brûlait tout le temps là-bas. Parce qu'on... Voilà, c'est ça la géhenne. Mais alors, ce que j'avais envie de faire ce matin, c'était pas de m'apesantir sur la crainte de Dieu, parce que c'est pas vraiment notre tasse de thé et notre proclamation de la bonne nouvelle, de faire peur, peur de Dieu, peur de son jugement, etc. Je me dis, il y a deux choses dans ce verset. Donc, au lieu de voir le verre à moitié vide, on va regarder le verre à moitié plein. Et n'ayez pas peur de ceux qui peuvent s'en prendre à votre corps. Chez Matthieu, la différence entre le corps et l'âme a une dimension toute spécifique. Matthieu a un arrière-plan judaïsant et il s'adresse à des communautés, des premières communautés chrétiennes qui sont d'origine juive. Donc il y a tout un contexte juif et imaginaire n'est pas le mot, mais tout un tas de références qui sont juives, judaïsantes. Et du coup, la notion de corps et âme a des aspects juifs là-dedans, bien plus que corps et âme, comme chez les Grecs, etc. Chez Matthieu, l'âme, c'est le souffle. Le souffle que Dieu a insufflé dans le corps d'Adam, dans la Genèse, dans le récit de la Genèse. Un souffle qui donne à Adam la vie. Ce souffle, c'est aussi celui qui nous habite, nous, tout au long de notre vie, et qui abandonne notre corps lorsque nous expirons. Chez Matthieu, le corps, c'est ce par quoi nous nous exprimons, ce par quoi nous apportons notre empreinte sur la terre. L'âme, le souffle, c'est le principe qui nous maintient en relation avec le Dieu vivant, le Dieu de la vie, le Dieu qui donne la vie. Ainsi, nous avons dans ce verset une promesse extraordinaire. Quoi qu'il arrive, même dans les pires épreuves, même dans les moments extrêmes et même dans la mort, votre souffle, notre souffle à chacun, notre relation à Dieu reste intacte. Nous restons reliés à Dieu, quoi qu'il arrive. Et je trouve que c'est intéressant et riche de voir ça comme une promesse. Je te promets, tu seras toujours relié à moi, nous dit Dieu, je te le promets. Et quand on traverse des épreuves, sans parler de la mort, on est souvent en train de se dire, Il faut que je reste relié à Dieu, il faut que je reste relié à Dieu, il faut que je reste. Comment je vais faire pour rester ? Et là, c'est l'inverse. Ça ne veut pas dire que cette question-là n'est pas pertinente, mais là, c'est une promesse qui nous est faite, un cadeau. C'est Dieu qui nous dit, tu es relié, ne t'inquiète pas, tu es relié et je suis lié et je me lie à toi, quoi qu'il arrive. Une promesse et non une injonction. Le troisième et dernier, n'ayez pas peur, continue sur la lancée de la promesse et de l'espérance. Ne vantons pas deux moineaux pour un as, cependant il n'en tombe pas un seul à terre indépendamment de votre père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup plus. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Un as ou un sou, dans un jeu de cartes, l'as, c'est la carte la plus haute. Mais dans les unités de monnaie romaine, un as ou un sou, c'est la plus petite unité de monnaie qui existe. Un sou, c'est trois fois rien. Trois fois rien qui permet d'acheter deux moineaux. Trois fois rien aussi. Un moineau, c'est le minimum, et au temple de Jérusalem, les personnes les plus pauvres avaient le droit d'offrir en sacrifice un petit moineau pour se réconcilier avec Dieu. C'était comme ça que ça marchait au temps du temple de Jérusalem. Et donc voilà, c'était trois fois rien, tout petit, mais quand même une possibilité qui est donnée. Bref, ça reste trois fois rien qui permet d'acheter trois fois rien. Et pourtant, Dieu tient le compte de ces moineaux qui valent trois fois rien. Il ne les ignore pas et il n'ignore rien de leur sort. Dieu se soucie ainsi des moineaux. Alors s'il se soucie de cette manière-là, de chaque moineau, et s'il n'y a pas un moineau qui vaut trois fois rien, qui tombe par terre, alors certes le texte nous dit sans que ce soit sa volonté. Alors c'est une autre prédication de savoir la volonté de Dieu et où ça vient, d'où ça vient. Mais pour le moment, concentrons-nous sur le fait que Dieu se soucie des moineaux et qu'il a la connaissance de ça. Donc s'il se soucie à tel point de petites choses qui valent trois fois rien, et si ça a du prix à ses yeux, à combien plus forte raison nous avons du prix aux yeux de Dieu. Il se soucie infiniment de chacun, de chacune d'entre nous. Voilà la deuxième grande promesse que Jésus nous fait. Il n'en a pas rien à faire de nous. Alors je ne sais pas si après ces trois, n'ayez pas peur, nous avons plus de courage pour témoigner, pour dire notre lien avec Dieu et toute la richesse de vie qui se déploie quand on est en lien avec lui. Mais en tous les cas, nous avons un contenu pour notre témoignage, une sacrée bonne nouvelle, si je puis m'exprimer ainsi. Tu as du prix aux yeux de Dieu, il se soucie de toi. Ta vie, ton souffle, voilà le lien qui t'unit à Dieu, et ce lien-là est indestructible. C'est ça, la bonne nouvelle qui nous est donnée d'annoncer en parole et en acte. Comment témoigner ? Il n'y a certainement pas de réponse toute faite. Et c'est à chacun individuellement et à chaque communauté de trouver son chemin de témoignage. Mais ce qui est sûr, il me semble, c'est que quand même, on ne peut pas faire l'économie d'une première étape. C'est cette étape de laisser Dieu nous parler au creux de l'oreille. Il me semble qu'à aucun moment, on ne peut mettre ça de côté. Parce qu'il y a en premier lieu quelque chose qui se passe dans l'intime. L'intime communautaire et l'intime individuel. Il y a quelque chose qui se passe au creux de nous. Il y a deux images dans le texte, l'obscurité, l'ombre. Et il m'a semblé que l'obscurité, l'ombre dont il était question dans le texte, ce n'était pas tellement les ténèbres avec tout ce qu'il y a de négatif, mais moi, ça m'a fait penser à l'ombre, à l'obscurité qu'il y a, ou à la pénombre qu'il pourrait y avoir dans le ventre de la maman qui porte son enfant. Il y a quelque chose qui naît, qui vit et qui grandit à l'abri, au creux de nous, et qui en son temps, comme le bébé va naître, en son temps, ça va paraître au jour. Il y a donc une parole qui a besoin de grandir dans la pénombre, ou en tout cas dans quelque chose d'intime qui permet que ça grandisse. L'enjeu, c'est d'avoir conscience, d'avoir la conscience que c'est une étape, et d'avoir aussi la capacité de discerner quand le temps est venu de laisser cette parole nouvelle naître à la lumière. Cette parole bonne nouvelle, c'est une parole qui nous est adressée et que nous recevons aussi, c'est la deuxième image, comme un murmure au creux de notre oreille. C'est donc une parole chuchotée. Ce n'est pas une parole qui vient nous être criée à l'oreille. Elle est parfois chuchotée avec insistance. Dieu sait bien chuchoter avec insistance. Mais en aucun cas, il ne nous hurle dessus pour qu'on comprenne mieux, il ne semble pas. Cette parole qui nous est murmurée au creux de notre oreille, elle m'a fait penser à cette voix de fin silence dans laquelle Élie reconnaît la présence de Dieu. Vous souvenez, Élie, le prophète, il fuit, il va dans une caverne et Dieu lui dit « Attends, je vais passer. Il y a de l'orage, il y a du tonnerre, des éclairs. » Mais Dieu n'était pas dans toutes ces choses-là, il n'était pas dans le tremblement de terre. Et à un moment donné, Élie a entendu, et l'expression en hébreu, c'est quelque chose d'étrange, une voix de fin silence. Et quand Élie a entendu ça, il s'est voilé la face et il est sorti pour rencontrer Dieu. Alors peut-être que nos communautés, avant de chercher à se former à des techniques de témoignage, peut-être qu'on pourrait apprendre ensemble à se mettre à l'écoute de la voix de fin silence, de cette parole qui est bonne nouvelle pour nous en tant que communauté et qui est murmurée au creux de notre oreille communautaire. Une parole qui ensuite nous fera sortir de notre caverne, de notre temple, pour aller la partager, la dire à voix haute et intelligible, pas la hurler sur les gens pour les venir les traîner de force dans le temple, pas en les assommant, mais en tranquillement partageant cette parole. Et en conclusion, peut-être que notre mot, enfin une parole en disant et en acte. Jésus a toujours fait les deux, et je pense qu'il nous faut aussi, en tant que communauté, trouver l'équilibre entre parole et acte. On a tendance à se dire « Ah, ben, on va agir, ça, voilà, ça nous évite. » Non, il y a parole et acte. Les deux se nourrissent et les deux sont importants. Et en conclusion, peut-être que notre mot d'ordre pour les jours à venir et pour... voilà, c'est mon dernier culte, hein, alors je peux laisser... Pas un testament, hein. Mais voilà, une parole, elle me porte, ces versets me portent, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, et je trouve que c'est très beau, à la fois pour une communauté, pour chacun individuellement, et puis aussi pour moi en tant que pasteur dans mon ministère qui va continuer ailleurs. Donc Ésaïe chapitre 50, les versets 4 et 5. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. Amen. Thank you. Et je vous invite à vous lever. On va chanter le cantique indiqué, le 36-30. Tu nous appelles à t'aimer. Restons debout pour confesser notre foi et je vous invite à prendre à la fin de vos recueils à la dernière page là. Normalement est inséré un double feuillet blanc avec des confessions de foi dessus. Et nous allons dire ensemble, pour celles et ceux qui le souhaitent, la numéro 3 qui commence par « Dieu est amour ». Dieu est amour. Par amour, notre Père a créé le monde. Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour que l'amour naisse au cœur de l'humanité. Son Esprit nous rend responsables et libres pour vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui, comme chaque jour, à répondre à son amour. Dans l'Église, comme artisan de vérité et pardon, parmi les hommes et les femmes, comme artisan de justice et de paix, dans le royaume qui vient, comme témoin de sa fidélité, Dieu est amour, c'est ce que nous croyons. Amen. Mon seul abri, c'est toi, sur la feuille de spontané.
Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur de
vous invite à vous asseoir. C'est à présent le moment de l'offrande, où nous offrons nos dons pour le service de l'Église et sa mission dans le monde. Dieu vivant, inspire-nous jour après jour des gestes d'offrande et que celle-ci soit un signe de notre engagement à ton service. Amen. Et c'est le moment des annonces.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Nadine pour ce dernier culte et pour tout cet accompagnement tout au long de cette année qui nous a été bien précieux. Plusieurs annonces. Alors, il y a beaucoup moins d'activités puisque la période estivale est déclenchée. Il y a pour autant paroles et prières. Et puis, le conseil presbytéral se réunit demain. Donc voilà. Et paroles et prières, comme d'habitude, à 18h le mercredi. Dans les annonces qu'on nous a demandé de faire, tout d'abord pour l'ACAT, je vous lis le texte. L'action des chrétiens pour l'abolition de la peine de mort et de la torture prie plus que jamais pour les victimes de la torture et vous invite le 26 juin à 17h30 à la visitation, à la prière des vêpres. La communauté nous accueille et s'unira ainsi avec les chrétiens, les sympathisants du monde entier à l'occasion de la nuit des veilleurs pour les victimes de la torture. Nous aurons au cœur le souvenir de Kossoul, notre filleule au Texas, qui a été exécutée l'an dernier. Il est parti paisible, confiant en ce Dieu qu'il a découvert dans sa prison. Donc vous pouvez vous joindre à... Donc le rendez-vous, c'est le 26 juin, 17h30, à la visitation, vers les visitandines. Et puis quelque chose qui concerne un groupe de l'Église. Le groupe Pain, Parole et Partage vous invite à sa sortie de fin d'année, qui aura lieu samedi prochain, le 1er juillet. Elle vous mènera au bord du lac du Bourget, à l'abbaye de Hautecombe, nécropole des Ducs de Savoie et depuis 1992, lieu de prière et d'accueil de la communauté écuménique du Chemin Neuf. Au programme visite du lieu, de l'abbaye, par un audioguide, si vous voulez, il faut prévoir 4,50 € par adulte, c'est gratuit pour les enfants, et de la boutique si souhaité. Éventuellement, temps d'échange avec un membre du Chemin Neuf, célébration de la messe à midi, puis pique-nique partagé, balade et ou visite à proximité, il y a plusieurs possibilités proposées. Le rendez-vous est entre 9h30 et 10h. L'heure sera précisée en fonction de la possibilité de rencontrer la congrégation au parking de l'abbaye. Retour ensuite à Annecy au plus tard à 19h. Et vous avez le moyen de covoiturer, il faut à ce moment-là contacter Andrea. Donc si vous voulez des précisions, vous viendrez, je vous donnerai l'adresse mail de Andrea. J'ai pas terminé. Mais tu pourras. Ensuite, il y a malheureusement un enterrement qui a lieu à la Balme de Sillingy de Gertrude Descloîtres. C'est le mardi 27 à 12h. Je pense que j'ai terminé. Y a-t-il d'autres personnes à part d'autres, pas de message? Merci.
Tout bon? Je vous invite à la prière. Dans ses lettres, l'apôtre Paul compare l'Église, la communauté, à un édifice composé de pierres vivantes. Et aujourd'hui, je vous invite à prier les uns pour les autres avec cette image des pierres vivantes. Non seulement celles qui forment notre communauté, mais aussi celles qui forment notre communauté humaine au-delà de toute frontière. Nous prions. Dieu vivant, nous te prions pour celles et ceux qui sont faibles et fragiles, comme l'ardoise qui se brise facilement. Soutiens-les et rends-nous attentifs à eux. Nous te prions pour les personnes qui, comme le granit, sont solides, fortes. Donne-leur de se laisser émouvoir par le monde qui les entoure, pour qu'ils sachent s'ouvrir aux autres. Nous te prions pour celles et ceux qui, comme la pierre volcanique, sont éprouvés par la maladie, le deuil, les difficultés ou la solitude. Celles et ceux qui sont broyés par la coulée des épreuves et des injustices. Celles et ceux qui n'arrivent pas à trouver la paix. Donne-leur courage et espérance et guide notre chemin avec eux. Nous te prions pour celles et ceux qui, comme la géode, se sentent ignorés, méprisés, les petits, les discrets dans leur travail, dans leur famille ou dans l'Église. Aide-nous à les reconnaître, à les prendre en considération, à mettre leurs talents en valeur. Nous te prions pour celles et ceux qui, comme la rose des sables, luttent pour vivre, combattent pour trouver une place, pour ne pas être écrasés par les autres, pour s'épanouir. Donne-leur la paix et la douceur et aide-nous à marcher à leur côté et à les accompagner. Nous te prions pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui sont comme des multitudes de pierres. Rassemble-les pour bâtir un monde toujours plus juste, toujours plus paisible, toujours plus hospitalier. Aimer dans le creux de nos efforts, de nos actes et de nos paroles, la justice, la paix et l'hospitalité. Et toutes nos autres prières, nous voulons les rassembler en te disant la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Une parole d'envoi que j'emprunte à la règle de Reuilly. Petit livret vert. Ça s'appelle « Détendre son arc ». Dégage-toi dans la mesure même où tu t'engages sans compter. Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui. Le cœur humain, même le plus généreux, n'est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. À exiger sans cesse le maximum de lui-même, l'être profond se dissocie, se perd. La parole alors devient vide et la prière inquiète. Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et se tenir tranquille et rassemblé devant le maître de tout. Pars donc vers la source cachée de toutes choses. Quitte tout et tu trouveras tout. Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même. Respire. Reprends haleine. Apprends, dans le repos du corps et de l'esprit, la calme lenteur de toute germination. Reçois la paix du Christ. Ne te hâte pas, afin de mieux courir dans la voie des commandements. Oui, le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière. Il nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers nous. Il nous donne sa paix. Allons toutes et tous dans la paix du Seigneur. Amen. Et on rechante, tu nous appelles à t'aimer, la deuxième strophe.
Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi.
Bonne semaine et puis surtout, alors, bonne route à vous et à votre nouveau pasteur.
Merci.
Écoute, je crois que c'est Florence et elle. Il y avait Pierre aussi.